Letellier Gosselin Duclos Avocats, votre partenaire depuis maintenant 30 ans. Letellier Gosselin Duclos, une équipe dynamique qui sait faire la différence. Letellier.com.
Jusqu'à 10 heures, vous écoutez.
Que l'Outaouais se lève.
Voici Daniel Evans.
Il est 8h22 minutes. Sujet qu'on va toucher ce matin avec Maître Geneviève Blais. Bonjour, Maître Blais.
Bonjour.
Ce matin, évidemment, oui, ça va bien?
Oui, merci.
Okay. Disons que c'est un sujet qui n'est pas facile nécessairement, mais que lorsqu'on se marie pour la vie, ce n'est pas nécessairement pour la nuit, comme disait la vieille blague. Là. Mais là, en cette période de COVID-19, comment on amorce son divorce et comment ça peut être différent de d'autres moments? Les gens qui décident. Parce que là, on a traversé une période, puis si le couple était déjà hypothéqué, ça risque de briser à ce moment-là. Alors, comment on amorce ça, même si on était en période de COVID?
Effectivement, bon, la COVID a laissé des traces pour certains. C'est pas toujours évident. On ne sait pas ce qui se passe dans la maison de tous et chacun, mais il y en a plusieurs qui ont vécu une période de crise. Puis bon, certains vont avoir décidé de rester ensemble, coûte que coûte, se donner une chance. D'autres, évidemment, ont amorcé ce processus-là à l'aube de la période estivale. Mon collègue, la semaine dernière, vous parlait bon, de toute la numérisation en fait qui est en train de se faire avec le palais de justice, mais on est quand même dans un système juridique qui est au ralenti comparativement à ce qu'on connaît habituellement. Donc, avec les mesures d'urgence sanitaire qui sont toujours en place, on est comme sur un... C'est comme si on avait appuyé sur pause pour la plupart des procédures au Québec. Donc, tout ce qui est respect des délais, par exemple, si on reçoit une procédure, on a un certain nombre de délais, un certain nombre de jours, en fait, pour y répondre. Dépendamment de la procédure, c'est important de consulter parce que notre procédure peut être, justement, qu'elle est visée par une suspension de délai ou pas. Ce qu'il faut se souvenir, en fait, ce matin, là, puis je veux commencer par ça, c'est que même s'il y a, justement, suspension des procédures, ça ne veut pas dire que on ne peut pas amorcer son divorce. On ne peut pas commencer notre procédure de séparation. C'est un bon moment pour le faire, dans ce sens où, bon, les avocats, on travaille à peu près tous. Il y a une grosse recherche documentaire qui vient accompagner un divorce. Faut comprendre que souvent, on a un fonds de pension, on a la maison, il y a les enfants, bien évidemment, là-dedans. Puis, juste le temps de prendre des décisions puis voir, justement, comment on peut enligner nos choses. Bien comprendre les intentions de chacune des parties. Ouais. Ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines à assembler toute la documentation nécessaire. Donc, c'est un bon temps pour le faire. Puis bon, les gens, souvent, on a le réflexe même au téléphone avec les gens avec qui on parle. On se fait dire, mais je peux pas vraiment bouger présentement. C'est une crise sanitaire. Qu'est-ce que je fais?
Ils ne veulent pas se rendre nécessairement en cours, aller à la cour. Donc, ils ont un plan B à ce moment-là pour eux autres.
Oui, puis on fonctionne beaucoup avec la négociation, évidemment, la médiation. Les médiateurs travaillent aussi. Donc, on travaille vraiment là de façon active pour trouver des solutions. Mais il faut aussi réaliser que si vraiment on est dans un cul-de-sac où on n'est pas capable de trouver une solution, ou bien on a réglé, je sais pas moi, 75% de notre situation, puis par exemple, il nous reste la question de la maison. Parce qu'on s'entend, c'est souvent l'actif le plus important pour les couples. Puis bon, là, on ça allait pas bien avant le COVID. On a décidé de rester ensemble pendant cette crise-là. On en sort tranquillement. Puis on se dit, ben, est-ce que je peux faire un achat, par exemple, de maison pendant cette période-là? C'est possible. Puis on est capable de traiter, justement, une situation, par exemple, comme mettre la maison en vente. Même si les gens ne s'entendent pas, c'est quelque chose qu'on peut traiter devant le tribunal de façon urgente, évidemment, dépendant des situations. Même chose au niveau des enfants. Là, on vient de terminer la période scolaire. Il va y avoir une entrée scolaire dans 2 mois. C'est vrai que ça paraît loin, mais c'est très, très proche.
Ça va venir vite,
oui, puis tout ça peut être traité devant le tribunal. Donc, la cour, présentement, en matière familiale, elle entend les mesures d'urgence. Donc, que ce soit, par exemple, quelqu'un qui a de faibles revenus, un conjoint qui a des revenus importants ou une conjointe qui a des revenus importants puis qui a besoin d'une pension alimentaire pour lui-même ou elle-même, c'est quelque chose qu'on peut adresser devant le tribunal pour lui permettre de se relocaliser, par exemple, pendant la séparation. Ça peut être une vente de maison, comme je vous dis, selon certaines circonstances, c'est pas un automatisme. On peut traiter aussi des gardes d'enfants. Donc, si vous êtes pris dans une situation, justement, où la séparation, elle est pas facile, ça fait déjà plusieurs mois que vous habitez sous le même toit, puis vous vous dites, ben, oh, je peux toujours pas rien faire parce que le système tourne au ralenti.
Ouais, c'est ça.
Tourne au ralenti, mais ne vous empêchez pas, justement, de consulter parce que on va regarder la situation avec vous pour voir, justement, qu'est-ce qui est faisable dans les circonstances. établir un échéancier pour vous permettre de vous sortir de cette situation-là, là, parce que souvent on dit bon, on va rester, mais des fois, justement, pour les enfants, c'est peut-être pas ce qui est dans leur meilleur intérêt, là, dépendant des circonstances.
Et c'est quand même compliqué, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide d'avocats. Mais ce qui arrive des fois, à partir du moment que vous asseyez avec le couple et parlez avec eux, que devant la complexité de tout ça, malgré que vous tentez de leur rendre ça facile, qu'ils décident, bon, mais écoute, on n'a peut-être pas fait les efforts, tous les efforts, on va s'essayer encore. Est-ce qu'il y en a qui reculent devant arriver face à une situation ou une décision qui pourrait être très compliquée, qui pourrait faire mal?
Oui. Ouais. Ça arrive. Je vous dirais que c'est pas quelque chose nécessairement de fréquent, mais j'ai quelques dossiers en tête là, qui me sont arrivés au cours des dernières années où les gens ont décidé de se donner une deuxième chance pendant le processus. C'est sûr que dépendant où est-ce que la personne est rendue dans son processus, ouais. Ça peut avoir un effet aussi. Il faut comprendre que comme avocat, on va rencontrer des gens très, très tôt dans le processus ou très, très tard dans le processus. Donc, les gens qui viennent nous voir, par exemple, en consultation, juste pour démystifier, regarde, moi, ça va pas très bien dans mon couple, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui arrive si jamais je prends la décision de me séparer. Okay. Ben, à ce moment-là, on va regarder justement l'ensemble du bagage financier, la situation par rapport aux enfants, la situation des parties eux-mêmes, des époux, pour voir qu'est-ce qu'on a à prendre comme action. Puis on parle beaucoup de divorce ce matin, mais ça serait un peu la même dynamique au niveau des conjoints de fait. C'est juste qu'au niveau du partage, ça fonctionne très différemment. Donc, dépendant si la personne est au début, si on est à la fin, puis ça fait justement, il y en a qui vont rester ensemble dans la même maison pendant un an avant de passer à l'acte, mais souvent, on a un bon bout du processus de fait, là. Il y a des gens qui peuvent décider de faire chambre à part, partager justement la maison pendant la période de mise en vente.
Ça doit être très compliqué, ça. Je sais pas, mais il me semble que vivre avec la personne avec qui tu veux plus vivre avec, il me semble que ça doit être assez compliqué.
Ça donne des beaux mots de tête à plusieurs. Et de là, justement, je pense que ça a été la réalité de plusieurs personnes pendant la COVID. Puis il y a une question financière aussi qui est rattachée avec ça. C'est pas tout le monde qui peut se permettre, séparer ou ensemble, de bon décider de acquérir une nouvelle propriété ou même de louer une deuxième propriété en ayant toujours à supporter là, l'hypothèque, par exemple, les taxes municipales et tout le lot là, qui vient avec une maison ou un condo. Donc, c'est des choses aussi qu'on va regarder justement avec les gens pour voir, on va faire le bilan justement financier de la personne pour regarder c'est quoi ses actifs, c'est quoi son passif, c'est quoi le budget mensuel de la personne ou annuel pour voir c'est quoi ses entrées possibles de revenus. On va faire la même chose avec l'autre partie pour déterminer c'est quoi les options. Parce que c'est beau quelqu'un qui dit « moi, je veux sortir de la maison et je veux me relocaliser ». Des fois, c'est pas possible. Donc, il faut être très créatif. On a ce qu'on appelle le nesting, des fois, qui va être mis en place où là, les parents vont rester dans la maison avec les enfants pendant leur temps de garde. Puis lorsqu'on n'a pas à charge les enfants, ben, on va sortir, nous, de la maison pour aller se loger, par exemple, chez un ami, un membre de la famille, ouais, etc., ça. Qui va des fois amoindrir un peu là, les frictions qui peuvent exister dans le couple.
Mais ça, la médiation...
Dans le feu couple.
La médiation a comme ce but-là de calmer les ardeurs, calmer les deux parties qui s'entendent plus et veulent aller chacun de leur côté. Alors, à partir du moment qu'il y a un médiateur, ça peut, ramener les choses un petit peu.
Oui et non, dépendant des circonstances. Parce que le médiateur n'est pas un thérapeute de couple. Donc, le médiateur, par exemple, que vous allez voir qui est un avocat, moi, j'en fais pas, mais je réfère mes collègues dans le district quasi quotidiennement. Les médiateurs sont là pour justement trouver une solution, expliquer c'est quoi le cadre judiciaire, le cadre juridique en fait, quels ont les droits de chacune des parties, pour ensuite voir à les amener vers un règlement. Il y a des dossiers où ça casse très, très rapidement ce processus-là. Il y a des dossiers qui durent pendant très longtemps. Ça dépend beaucoup justement de la volonté de chacun, de c'est quoi les enjeux également. Puis, il faut se souvenir aussi ou réaliser en fait que les gens qui sont en médiation souvent sont accompagnés par un avocat en parallèle au processus de médiation pour justement voir à les aiguiller sur des particularités qu'il y a dans leur dossier. Si on parle, par exemple, d'une personne qui a un revenu de travailleur autonome, ben ça peut causer plusieurs frictions dans le cadre d'une médiation.
Parce que là, le salaire n'est pas sûr.
Prend plusieurs déductions. Ben, c'est ça.
C'est ça, le salaire n'est pas certain.
Moi, j'ai fait une grosse année l'année passée. Cette année, ça va être moins important. Les contrats peuvent être mis en question. Le type de travail, le nombre d'heures allouées, Les dépenses qui sont prises dans le cadre de l'entreprise.
Et la motivation.
Est-ce que tout ça, justement?
La motivation aussi. Peut-être que tu es moins motivé à faire l'année que tu as eue d'avant si tu es en train de te séparer ou te divorcer.
Oui. Donc, tout ça peut avoir un impact, évidemment, selon les circonstances. Donc, l'avocat qui va vous accompagner en parallèle va être là aussi pour voir avec vous quelle serait l'approche à prioriser en médiation, ou est-ce que, justement, on devrait céder à l'autre partie qui nous dit « Non, non, regarde, mon revenu, c'est 20 000 », alors que c'est peut-être 50, 60, 70,
c'est ça,
là, je lance des chiffres comme ça.
Non,
donc, cet avocat-là, en parallèle, va pouvoir aider, alors que si on reste dans le processus de médiation, on va peut-être justement être en confrontation qui va faire avorter votre processus de médiation. Donc, le médiateur peut vous dire « Regarde, ça, allez consulter à l'externe, puis là, vous revenez à la table par la suite. » Donc, il faut vraiment voir notre rôle, oui, comme étant des gens qui font donc du litige. Là, on va à la cour de façon virtuelle maintenant, là, je vous dirais principalement. Ouais. Mais on est aussi là, on a un grand rôle d'accompagnateur. C'est ce qu'on a fait aussi pendant la COVID, d'être créatif, de trouver des façons justement d'accompagner les gens puis de faire avancer les dossiers différemment parce que les procédures sont suspendues. Comme je disais, on a travaillé sur des urgences, mais le but n'était pas d'encombrer le système, l'appareil judiciaire, c'est toujours pas le cas non plus, là, parce que si tout le monde fait ça, on va avoir un sérieux problème. Donc, de là l'importance de dialoguer autant pour les parties, dans la mesure où c'est possible, que justement par le biais d'un conseiller juridique, d'un médiateur qui va être là pour vous accompagner dans le dossier, puis de vous sortir de là. Donc, faut pas se dire, même la il y a peut-être une deuxième vague qui arrive, on va rester en mode COVID. Il y a des options qui peuvent s'offrir à vous, donc c'est important d'aller vérifier.
Absolument. Est-ce qu'il y a un chiffre d'anger dans un couple qui vit ensemble, soit marié ou conjoint de fait? Dire exemple, bon, il y en a qui disaient que la septième année est l'année critique. Est-ce que vous avez remarqué un chiffre qui était le chiffre et la lumière rouge dans vos dossiers?
Bien honnêtement, je vais vous dire non.
Non.
Je vous dirais, il n'y a pas de temps ou de. On voit des gens là, qui sont mariés que quelques mois jusqu'à des relations là, de 30, 35 ans. Quand ça va plus, ça va plus. Puis chacun a ses raisons. Elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Mais j'ai pas remarqué de. Je pourrais pas vous faire une statistique ce matin.
J'ai déjà vu, moi, aller faire quelque chose pour des gens dans un 50e puis les féliciter à dire bravo 50 ans de mariage quand il y en a qui peuvent même pas rester mariés 50 jours. C'est déjà arrivé que j'aille à dire ça. Mais il y a quand même une réalité là-dedans, dans le fond.
Oui, ben en fait, comme peu importe, effectivement, vous disiez qu'on soit conjoint de fait ou marié, je pense qu'on est dans une relation sociale, on a des gens qui cohabitent ensemble.
Oui.
Puis des fois, ben certains vont penser que le mariage est une solution, alors que ce l'est pas, mais je vous dirais un exemple parmi tant d'autres, parce que justement, chacun vit à sa façon, a ses propres idées, puis quand ça fonctionne plus, il y en a qui vont décider de rester quand même. Je vous dirais, je suis loin d'être une psychologue, tu sais, puis chacun a sa position, puis je pense que tout ça est valable tant et longtemps que la personne, elle est bien, ou en fait, elle se sent en mesure de continuer. Ben, après ça, c'est une décision très, très personnelle qui lui appartient, que ce soit notre meilleur ami ou notre pire ami, on est très mal placé pour déterminer la décision que cette personne-là aurait dû prendre.
Comme on dit, pour le meilleur ou pour le pire. Quand c'est le meilleur, ça va bien, mais quand le pire arrive, il faut être fait fort, comme on dit.
Effectivement.
Un gros merci.
On est là pour accompagner, pour essayer de rendre ça moins pire plus facile dans la mesure du possible.
Ben, vous écoutez, je pense qu'effectivement, vous pouvez aider beaucoup. Maître Geneviève Blais, merci beaucoup d'avoir été avec nous, associé de chez l'Hôtelier Gosselin Duclos et avocat. Et au plaisir de se reparler.
Grand plaisir.
Merci. 8h35.